talmudique. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas temps de me dire « je m'endors ». Ces deux phrases sont les deux premières de La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Elles constituent ce que l'on nomme l'incipit, c'est-à-dire ce qui commence une œuvre et qui donne la tonalité, qui intrigue, séduit, attire, ouvre des horizons d'attente selon une formule chère aux classes de littérature. Chaque roman et récit possède leur incipit, les œuvres musicales, les films aussi, et bien sûr, les grands textes des traditions religieuses et spirituelles. Ainsi en va-t-il de la Bible hébraïque, de la Torah, qui commence par une première lettre, un premier mot, et une première phrase qui ouvre ce texte. Un mot en hébreu de 6 lettres, qui se prononce « Bereshit », et qu'une certaine tradition largement partagée propose de traduire par « au commencement ». Mais est-ce vraiment une juste traduction de ce terme ? C'est-à-dire une traduction qui, avec justesse, rend justice à ce mot, à son pouvoir dire qui dépasse de loin le seul fait d'être le début de quelque chose, l'origine, l'inauguration, l'amorce, l'éclosion. C'est toutes ces questions que nous allons reprendre et approfondir aujourd'hui et la semaine prochaine avec un penseur qui a consacré un ouvrage récent, un ouvrage profond et enthousiasmant, riche et surprenant, intitulé « Le premier mot » et sous-titré « Au commencement, histoire d'un contresens ». Pierre-Henri Salfati, bonjour.
Bonjour.
Pierre-Henri Salfati, vous avez une double casquette, si l'on peut dire, et vous nous direz la semaine prochaine comment elles se portent ensemble. Vous êtes à la fois cinéaste, 40 courts-métrages, 9 longs-métrages et au moins 50 documentaires, et vous enchaînez les sélections officielles, les nominations, les prix et les grands prix. Et en même temps, vous êtes passionné par la pensée juive que vous enseignez depuis presque 40 ans, passionné aussi par la langue hébraïque et les questions de traduction qu'elle pose, ainsi que par les règles d'interprétation qui la mettent continuellement en mouvement et lui donnent une vitalité toujours très singulière. Et c'est sur l'exemple d'un mot, et pas n'importe lequel, le Bereshit inaugural, que vous avez choisi de montrer les enjeux de ces règles d'interprétation, de ces méthodes de lecture qui ouvrent des chemins magnifiques et inattendus. Un fameux commencement, Pierre-Henri Salfati, vous en repérez 5 particularités, ce qui permet, selon vous, de mieux en cerner le sens et les enjeux.
Absolument. Et pourquoi aller chercher plus loin que le premier mot pour raconter peut-être d'ailleurs la même histoire, puisque finalement, quel que soit l'âge ou quel que soit le lieu ou quel que soit le mot par lequel les yeux entament la lecture de la Torah, on est censé systématiquement arriver à la même chose, au même but. Ça, c'est le génie herméneutique propre à l'hébraïsme. C'est-à-dire, c'est même une prouesse que de presque s'amuser avec le premier, le dernier, le mot du milieu, et voir qu'en continu travail herméneutique, on peut aisément parvenir aux mêmes conclusions. Donc, déjà ça, en soi, c'est quelque chose qui demande approfondissement, explication et plaisir. Et donc, effectivement, je commence par le commencement, comme Rashi. Et d'ailleurs, j'aimerais rappeler à cette occasion une chose exceptionnelle. Rashi, qui vivait donc entre le 12e, fin du 12e et début du 13e siècle, à Troyes, en Champagne, a attendu lui-même d'avoir dépassé l'âge de 60 ans pour se mettre à rédiger son travail. Il avait derrière lui au moins 50 ans de réputation de génie et de maître de la philologie hébraïque, mais quand même, il a pris sur lui de voyager, d'aller à la recherche de celui qui, peut-être avant lui, aurait fait mieux que lui. Un peu comme on dit de Moshe Rabbeinu, qu'il était très modeste, parce qu'il disait « n'importe lequel de ces juifs peut faire mieux que moi ». Et on va lui montrer que non, on peut pas faire mieux que Moshe, disons. Et Rashi n'a pris sur lui que de commencer son commentaire après avoir eu l'assurance que personne n'avait précédemment fait mieux que lui, et peu importe si après lui on fait mieux. Mais on n'a pas fait mieux. Et donc, il s'est mis à écrire dans l'ordre. Il a commencé par le mot Bereshit. Et son commentaire, qui est rarement le cas pour les autres de ses commentaires, double. Il va commenter 2 fois Bereshit, une fois en tant que incipit, c'est-à-dire on a donné au premier livre le nom du premier mot, et ça c'est coutumier chez les juifs, on va nommer le livre du nom du premier mot. Et d'une part, en tant que incipit du livre, et d'autre part, son deuxième commentaire va concerner vraiment le premier mot. Donc le premier commentaire sur le premier mot concerne le premier livre, disons, et le deuxième concerne ce premier mot qui commence ce premier livre, qui commence toute la réflexion sur la Torah. Et à l'analyse extraordinaire de ce texte, moi j'ai été surpris au cours de mon travail de me rendre à l'évidence qu'il était étonnant que tous les sages, connus, moins connus, méconnus, hyper connus, ne s'étaient préoccupés de ce Rashi, comme s'ils étaient en phénomène d'évitation. Et tout ça s'expliquera. Eh bien, à la lecture de ce double Rashi, on en arrive à la conclusion, effectivement, que ce premier mot, d'entrée, nous signifie cinq particularités. Alors la première, c'est que c'est le premier mot. Mais dans cette première singularité, ce premier mot ne veut pas dire au commencement. C'est-à-dire, moi, je suis le premier mot qui ne commence rien. Donc c'est déjà un sujet de dialectique fameux. La deuxième chose, tout à fait particulière, c'est que c'est un apax legomenon, c'est-à-dire, il n'apparaîtra qu'une fois dans tout le livre. Nous n'avons aucune référence pour pouvoir cerner réellement ce sens-là que l'on veut nous glisser à l'esprit. Et il est doublement en creux. C'est que d'une part, il est unique dans le livre. Nous n'avons pas d'autre lieu auquel se référer pour venir valider éventuellement un sens précis. Et qui plus est, il est en commencement, donc il n'a pas de précédence. Donc il a un double creux. Il est tout seul, il n'y a rien qui le précède. Donc ça, c'est une seconde et très importante singularité. La troisième singularité du livre, c'est que c'est un mot qui a été créé pour ça. Ce qui explique que c'est un apax, ce qui explique qu'il ne commence rien. Pourquoi ? Parce que, comme le dit Rashi, si nous, juifs, on avait écrit nous-mêmes ce livre et qu'on ait voulu dire au commencement, on a une dizaine de mots, batrila, bakdama, ptira, pour dire au commencement, barishona. Eh bien non, on a choisi d'inventer un mot. Donc en fait, sa troisième singularité, c'est qu'il est créé pour ça. Et on verra, si vous voulez, comment la création de ce mot est tchinoui. C'est-à-dire comment ces six lettres sont composées. On verra que c'est a été un grand œuvre. Quand on dit Maase Bereshit, les secrets de la Kabbale, qui seraient les secrets de ce domaine que l'on appelle dans ces sujets-là Maase Bereshit, fabrication du monde, et que la Kabbale s'occuperait des secrets, des arcanes de la fabrication du monde, avant même de se préoccuper de ça, dans le chassidisme profond, on vous explique que Maase Bereshit, ça veut simplement dire fabrication du mot Bereshit. Et que dans la fabrication de ce Maase et Bereshit, dans ce mot de Bereshit, nous avons contenu tout ce que seront les secrets de la fabrication du monde.
Alors, il faut peut-être préciser, parce que c'est pas évident pour tout le monde, oui, que Bereshit, c'est le premier mot de la Genèse, de cette célèbre phrase qui dit « Bereshit bar Elohim et Hashamim vet haaretz », que l'on traduit généralement par « Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre », mais vous dites, avec le commentaire du Rashi et un ensemble de commentaires que vous allez apporter, que cette traduction de « Au commencement » est un contresens, en tout cas, n'est pas ce qui est écrit dans ce livre. Et que ce mot « Bereshit » a une quintuple particularité. Vous venez d'en parler, d'en donner trois. Quelles sont les suivantes, Pierre-Henri Salfati?
Je vous en prie. Alors, la quatrième de ces singularités, et j'emploie à dessein le mot singularité, parce que figurez-vous que les astrophysiciens aujourd'hui, qu'ils soient des physiciens quantiques ou des physiciens mécanistes, nomment le Big Bang, ce prétendu commencement du monde, dont ils sont absolument persuadés que ce n'est qu'une vision de l'esprit. Singularité. Singularité initiale. Ils n'ont pas trouver d'autres manières de dire on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Mais en remontant à rebours les lois de la physique classique et einsteinienne ou même quantique, on est obligé de dire ben c'est une singularité initiale. Donc j'ai réemployé le mot singularité. Et donc la quatrième, c'est que ce mot est le premier de 79 846 mots que contient la Torah. Et en fait, la quatrième de ses singularités est que ce seul mot à lui seul contient en puissance les 79 846 mots qui le suivent. C'est-à-dire qu'à lui seul, il est tous ces mots. Alors après,
Il faut le démontrer.
Il faut comprendre quoi. Et alors, la plus extraordinaire de ces singularités initiales est la cinquième, à mon avis. Parce que la cinquième nous dit simplement, c'est un mot qui ne sert à rien. Et effectivement, quelqu'un qui est croyant, si c'est son cas, il suffirait qu'on dise Dieu a créé le ciel et la terre. Mais qu'est-ce que c'est ce concept de commencement ? Et Rachid dit, mais commencement de quoi ? On aurait dû au moins nous dire au commencement de la création de l'univers, au commencement de la création en général. Non, au commencement de rien, Dieu a créé le ciel et la terre. Et je fais remarquer quand même que quand on nous prétend que Dieu a commencé par faire le ciel et la terre, c'est donc pas un commencement, puisque le commencement c'est une chose première, unique. Là, il y aura un commencement double, tout de suite, le ciel et la terre. Et pour Dieu, nous dit ce cinquième singularité, il n'y a pas besoin de temps, Dieu n'a ni commencement ni fin. Donc, qu'est-ce que c'est que ce concept qu'on met dans la tête des individus qui ont besoin, à eux, de référents ?
Alors, qu'est-ce que dit Rashi ?
Rashi dit toujours à demi-mot les choses, et j'ai découvert que Rashi, tout ce qui fait sa caractéristique et qui va faire son succès au point où aujourd'hui toutes les Bibles juives imprimées, tous les Talmuds juifs imprimés, ne le sont qu'avec Rashi. C'est-à-dire, nous avons un Talmud français. Parce que Rashi a été suivi par ses élèves. Et vous avez un Talmud où l'imprimature est telle que vous ne pouvez plus vous passer de Rashi et plus vous passer de tous ses élèves, de sorte qu'ils sont tous français. Donc, Rashi, j'ai découvert ceci, si je puis dire, c'est que Rashi n'est pas autre chose qu'un immense philologue. Il ne va pas prendre parti pour ci, pour ça. Il ne représente pas une école qui s'oppose ou qui continue notre école, il inaugure quelque chose. Et en fait, son travail est un travail purement de philologue.
Qu'est-ce qu'un philologue et qu'est-ce que la philologie, en tout cas dans la manière dont vous comprenez ce travail chez Rashi, Pierre-Henri Salfati ?
Philologue, ça voudrait dire amoureux du langage, amoureux des mots. C'est-à-dire, quand en français, on entend souvent dire « qu'est-ce que ça veut dire ?» quand on pose la question. Mais qu'est-ce que ce mot veut dire ? Eh bien, on oublie très rapidement que l'on vient de dire qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on veut vous dire quelque chose. Les mots veulent quelque chose de vous. Ils sont dans cette dynamique de vouloir à tout prix vous dire quelque chose. Et les gens le disent banalement, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en fait, c'est qu'est-ce que ça veut te dire ? Il y a du vouloir. Je me souviens de Nietzsche, qui était philologue, justement. C'est-à-dire qui trafiquait les manuscrits, les papyrus, les vieilles choses écrites, et qui s'est rendu compte que les philosophes allemands lui avaient menti, puisqu'il découvrait dans l'amour des vieux textes et l'amour des vieux mots que Homer a écrit ceci et pas ce qu'on lui a dit à l'université. Il va découvrir les présocratiques, des philosophes qu'on avait exclus du champ de la philosophie européenne, qui sont des gens qui avaient tout dit avant que Platon, ou même le maître de Platon, Socrate, ne dise un mot, ou Aristote, n'en parlons pas. Donc c'est son amour de la langue originel, pur, l'orthographe, la grammaire, qu'est-ce que ça contient que toutes les philosophies du monde sont incapables d'expliquer réellement. Donc, avant même d'être philosophe, il est bien d'être philologue, c'est-à-dire amoureux de la langue. Et je le rappelle, c'est-à-dire Rashi, le plus grand dictionnaire de vieux français que nous possédons aujourd'hui en France. Pourquoi ? Parce que ses élèves étant français, le Talmud étant en araméen, le Talmud n'étant jamais clair parce que c'est une Torah qui a été écrite, mais qui aurait dû rester orale, donc ceux qui l'ont mise par écrit se sont arrangés pour qu'on ne puisse pas comprendre ce qu'on lit. Et qu'il faille toujours un maître qui, oralement, vous signifie, et donc Rashi fait partie de ceux qui ont participé à la langue, à l'amour de la langue. Et on se fait référence à Rashi, même quand on est un philologue franco-français ou international qui s'intéresse à l'origine.
Oui, puisqu'il traduisait les mots hébreux en champenois de son époque.
C'est ça. Thank you.
L'ouverture de La Flûte enchantée, Mozart, dans une interprétation de Franz Welser Most et le Philharmonique de Vienne, ce n'est pas la musique de la création du monde, mais de la création d'un monde, un conte imaginaire où chante le surnaturel, une musique qui, avec son livret, invite à l'interprétation des personnages, du récit, des nombres qui reviennent et insistent, comme le nombre 3, interprétation des silences, des répétitions et des changements de rythme. Et la création du monde n'est jamais loin non plus, car on retrouve la lune et le soleil, le feu et l'eau, la terre et l'air, avec un début où tout est chaos et qui se termine avec un monde ordonné. Les commentaires et la créativité nécessaires pour construire offrent souvent cet enchantement et s'appuient souvent sur un art de lire. C'est la philologie dont vous avez parlé. Ce Rashi, donc cet homme extraordinaire, ce philologue, cet amoureux de la langue, se pose la question: qu'est-ce que ce Bereshit veut dire?
Très justement, oui. Donc Rashi nous dit: ce mot ne veut pas dire au commencement, premièrement. Deuxièmement, ne pense pas qu'on vient t'enseigner la chronologie de la création du monde, qu'un dieu atemporel, infini, aurait eu besoin de commencer le monde un dimanche et de l'arrêter pour le week-end. Et il va le répéter deux fois. Ne t'acharne pas à croire qu'on t'enseigne ici la chronologie du monde. Mais tout le monde a fait abstraction de ça. Tout le monde est persuadé aujourd'hui que non, chez les Juifs, on dit que le monde a tant de milliers d'années, on se fout de l'histoire, de la préhistoire ou de l'astronomie. Donc Rashi nous dit une première chose, c'est que ce mot ne veut pas dire au commencement. Si on avait voulu dire au commencement, on avait un réservoir de mots dans la langue hébraïque qui veut dire au commencement. Et deuxièmement, ce commencement n'est pas le commencement de la chronologie du monde.
Donc imaginez. Donc premier enseignement philologique, ce n'est pas le commencement. Et tous ceux qui ont traduit par au commencement ont fait un contresens. Donc j'insiste, Pierre-Henri Salfati, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ce n'est pas un commencement, donc là c'est, je dirais, ce que ce n'est pas, mais qu'est-ce qu'il va proposer dans son commentaire?
C'est la question. Si ce mot ne veut pas dire ça, que veut-il dire? Et Rashi, fidèle à sa méthodologie, nous apprend la méthodologie. Parce que quand Descartes écrit le discours de la méthode, ou sur la méthode, il fait acte d'hébraïsme. C'est-à-dire que ce qui intéresse les étudiants sérieux de l'herméneutique biblique, c'est comment ça marche. Je m'amuse à répéter, peu importe qu'un serpent ait parlé, peu importe qu'on croit qu'un serpent parle, ce qui compte, c'est ce qu'il raconte. Et ce que va raconter ce Dieu qui peut-être n'existe ou peut-être n'existe pas, peu importe, on est bien au-delà de la croyance ou la non-croyance, peu importe qu'il parle ou non, ce qui compte, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, ce qui compte le plus, c'est la méthode. Et donc Rashi nous indique qu'il y a une méthode qui, contenue dans ce mot, nous amène à nous dire on n'a pas besoin du mot, on n'a même pas besoin du livre, puisque dans son premier commentaire, il nous enseigne la Torah n'a pas besoin de la Genèse, donc il transforme un Pentateuque en Tétrateuque, il fait ce que Moïse a fait, il n'a pas donné la Torah aux Juifs, il a juste brisé les premières tables. C'est un scandale, si vous voulez, même pour le récit. Il n'a même pas pris le risque qu'on ne lui donne plus de Torah. C'est-à-dire, en fait, rien ne lui disait que... Donc, il brise ce livre parce que le mot « Bereshit » veut dire « briser » le livre. Donc, d'une part, il brise la Torah, il dit « je n'ai pas besoin de ce mot « Bereshit », Dieu n'a pas besoin de commencer les choses ». Deuxièmement, nous n'avons pas besoin d'un livre qui va nous raconter une mythologie hébraïque avec un Adam, une Ève, un serpent, un jardin, un Caïn qui tue Abel, avec un Abraham, avec tout. Adieu la Bible.
Adieu la Bible, adieu les patriarches. Adieu les patriarches. Adieu Abraham, adieu Isaac, adieu Jacob, adieu Joseph. Adieu les premiers chapitres de l'Exode. Alors qu'est-ce qu'on va garder justement?
C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Rashi dit adieu la Bible. J'en ai pas besoin. Il faut le faire quand même.
Mais il explique, j'en ai pas besoin parce que c'est un livre de loi.
Parce que la Bible étant un livre de loi, oui, mais ça, ce n'est pas de les lois, toutes ces
justement,
choses-là.
Donc, voilà. Puisque, c'est-à-dire, il part du prémisse que la Bible serait un livre de loi, que la première loi donnée à Israël dans le chapitre 12 de l'Exode, c'est la loi du temps selon la lune. Donc, si la Torah est un livre de loi, et que cette loi est donnée au 12e chapitre de l'Exode, voilà. Je n'ai pas besoin ni de la Genèse, ni des 12 chapitres de l'Exode, donc je n'ai pas besoin du buisson ardent, ni de la révélation du nom de Dieu, etc. Mais, en fin de compte, malgré tout, Rashi va se dire, j'en ai pas besoin, mais ce texte est là. Et donc, la question qu'il pose, c'est pourquoi, en fin de compte, c'est là c'est et ça. Quelle réponse amène-t-il à pourquoi c'est là?
Rashi nous dit qu'on n'a pas besoin de ça, mais pourtant c'est là, parce que Bereshit, le mot et le livre, nous enseignent une chose extraordinaire et inattendue. C'est qu'un jour, dit Rashi, parce que les nations du monde accuseront les Juifs d'avoir volé une terre qui ne leur appartient pas, eh bien, quoi leur répondre? Eh bien, le livre de Bereshit vous enseigne la réponse à leur donner. Or, il y a une chose extravagante, c'est qu'on n'a jamais accusé les Juifs d'un pareil crime, d'avoir volé cette terre, si ce n'est au lendemain de la création par l'ONU de l'État d'Israël. Et nous, nous sommes contemporains de ce Rashi, puisqu'au temps de Rashi, c'était l'Empire franc de Jérusalem, qui a duré 2 siècles. Rashi cite un rabbin du 3e siècle, mot à mot, son commentaire, il faut le dire aussi, c'est cité d'un rabbin, un copier-coller d'un rabbin du 3e. Et les Juifs, à cette époque d'invasion romaine, ne pouvaient pas être accusés d'être... Donc Bereshit, d'après Rashi, veut dire simplement, il faut le décrypter, quoi répondre à ceux qui, ennemis des Juifs, les accusent de vivre dans un pays qui est le leur.
Vous nous dites que le premier commentaire de Rashi est un commentaire à la fois philologique, mais aussi politique. C'est une question, je dirais, une question délicate aujourd'hui. Qu'est-ce que ce livre de la Genèse, avec l'histoire de la mythologie des 11 premiers chapitres, l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, et le début de l'histoire de Moïse, sa naissance en Égypte, en quoi tout cela permet de répondre à cette accusation de spoliation d'une terre?
Donc voyez-vous, c'est une ambition formidable que Rashi dévoile. C'est quelque chose d'une dynamique étonnante. Alors, effectivement, il nous, bien avant, on va dire, Spinoza, il nous enseigne que ce livre est un livre de géopolitique. Pour dire une chose pareille, on va accuser les Juifs de prendre une terre qui n'est pas à eux, il faudra leur répondre. C'est de la géopolitique. On est dans un traité théologico-politique. C'est-à-dire, Rashi fait lui-même de la critique biblique. Quand il dit la Torah, on s'en fout de Moïse, de la mer Rouge, etc. Ici, qu'est-ce que nous dit Rashi? Bereshit, le mot, et Bereshit, le livre, nous enseigne comment répondre aux ennemis. Alors, ce n'est pas de tendre la Torah à bout de bras devant les ennemis, on va dire, globaux d'Israël, qui va consister en la réponse de Rashi. La réponse de Rashi devient philologue, devient amoureux de ce texte, devient dévoileur de la puissance de ce texte, et celui qui dit aujourd'hui « je ne sais pas » à toutes les questions a donc réponse à tout, mais dans Bereshit, il est, donc ça demande du travail et de l'étude, il est signifié autrement, quelqu'un qui dit « je sais » a aussi réponse à tout s'il montre qu'il sait. Or, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la dissension entre les uns et les autres? Je parle des nations du monde ou même des Juifs, c'est la manière de dire les mots. Et l'enseignement de Bereshit qui vous dit « ça ne veut pas dire ça, ça ne veut pas dire ceci, ça ne veut pas dire cela », mais alors qu'est-ce que ça veut dire au final? C'est bien la sentence talmudique « appeler les choses par leur nom, c'est participer à la construction du monde ». Si un jour le peuple juif se met à raconter ce que la Torah contient, non pas simplement pour les enfants et pour les adultes qui se suffisent de peu, mais rentrer dans la philologie pure, dans l'amour des mots, dans le sens des mots, eh bien nous aurons à assister, nous prétend Rashi, à une paix philologique. Ce qui mettra d'accord les gens, à un moment donné, qui se disputent aujourd'hui, c'est d'appeler réellement tous les choses par leur nom.
Si je comprends bien, c'est que, à l'instar de Spinoza, plus tard, Rashi nous dit que ce mot Bereshit est une invitation à l'étude philologique, à l'étude des mots, à l'étude de la compréhension des textes, au temps nécessaire de l'apprentissage, et que si on prend le temps de l'étude et de la compréhension des mots, on arrivera à une paix qui est politique, mais qu'on pourrait appeler paix philologique. Et dans cette réflexion sur le commentaire de Rashi, pourquoi je le trouve intéressant? Parce que vous nous invitez à l'étude et à prendre le temps de l'étude. Et dans cette réflexion sur le commentaire de Rashi, vous convoquez une interprétation de l'arbre de la connaissance. Et la faute, dites-vous joliment, consiste à manger le temps, Pierre-Henri Salfati.
L'invitation de Rashi, et l'invitation de toute forme par-delà Rashi, qui relève de l'intelligence, disons. effectivement, se focalise sur ce sujet du temps. Viendra le temps de. Viendra le temps où les nations du monde se mettront à parler la même langue. On ne se disputera plus sur le fond au nom de la forme. Les gens peuvent être tous politiquement d'accord sur le fond, mais la forme se dispute. Puis les gens peuvent ne pas être d'accord au niveau du fond et encore moins au niveau de la forme. Ce que nous enseigne Rashi, c'est vraiment un discours de diplomatie générale. Et chacun peut se mettre à son niveau à étudier et à appeler les choses par leur nom. C'est le grand problème aujourd'hui. Le politiquement correct a tué la diplomatie. De ne pas dire les choses clairement, c'est le grand mensonge contre lequel Rashi propose enfin d'être sincère avec ce que les choses veulent vous dire. La faute dite originelle d'Adam et Ève n'est pas d'avoir mangé le fruit. Le fruit est cachère, mais de n'avoir pas tenu compte de ce que la révélation biblique nous enseigne, ils n'avaient que 3 heures à tenir. Et donc, ces 3 heures, ils les ont mangées. Comme quand on dit aux braves gens de la judaïté, tu as tant d'heures à attendre entre la viande et le lait, et on va réaliser cette chose extraordinaire, que toute transgression, quelle que soit la transgression, est liée à se manger le temps, ou alors, à l'inverse, ne pas le manger. Mais on ne reste pas dans le temps. On est soit hors temps parce qu'on va trop vite, soit hors temps parce qu'on ne va pas assez vite. Mais comme dit Coëlette, il y a un temps pour chaque chose, mais c'est encore le temps qui règne dans cette affaire. Donc manger le temps, c'est la transgression.
Le texte de la Torah, comme tout texte, en fait, d'une certaine manière, nous invite à l'interprétation, c'est-à-dire requiert de notre part une créativité qui est nécessaire pour construire des sens qui sont nouveaux. Et vous nous offrez une philologie, un amour du texte, qui n'est pas simplement l'amour du sens du livre, ni du chapitre, ni de la phrase, ni d'un mot, mais de la lettre elle-même.
Tout à fait.
Et à ce moment-là, cet amour de la lettre, qui est d'ailleurs une lettre très dynamique, puisque les lettres vont se mettre à bouger dans une dynamique qu'on appelle le tsérouf, vous allez nous proposer une interprétation de Bereshit que vous pensez être la plus éloquente pour notre propos.
Alors en fait, le mot Bereshit étant composé de 6 lettres, vous avez 720 combinaisons. J'évoque dans cet ouvrage les 720 combinaisons de ces 6 lettres. Et je remarque, de manière magistrale en soi, que ces 720 combinaisons ont toutes une signification. Je vais en choisir une qui sera Bassar Yet. C'est-à-dire les lettres de Bereshit composent Bassar, qui veut dire la chair, qui veut dire le corps, qui veut dire l'être humain, et Yet, qui veut dire épeler. Le mot Bereshit peut se lire Bassar Yet, qui veut dire épeler la chair. Vous voyez, le mot épeler, c'est enlever la peau. Et c'est aussi appeler la chair. Donc voilà, parmi les 720 combinaisons qui sont toutes remarquables et extraordinaires, je choisirai celle qui dit épeler la chair, en sachant que la chair Bassar laisse la place quand on l'enlève. Si au corps de l'homme on enlève sa chair, il reste yet, qui à la fois compose le mot mal-être, oti, mal-être, et qui compose le fait puissant de pouvoir décrypter, analyser, décortiquer, lettre après lettre, le corps de l'homme, l'esprit de l'homme, le monde en soi. Bereshit cache comme ça énormément de possibles. Ce sont des méthodes, c'est-à-dire les 720 sont 720 méthodes.
Nous avons vu le commentaire de Rashi, nous avons vu la philologie, nous avons vu que cet amour de la lettre permet de lire le Bereshit lettre à lettre avec des permutations de lettres. Nous sommes le dimanche de Pâques et nous sommes aussi le dernier jour de Pessah, de la fête de la Pâque juive. Est-ce qu'il y aurait une interprétation du Bereshit, puisque tout s'y trouve, qui serait en relation avec, par exemple, le jour des Pâques chrétiennes?
Parfaitement. La Pâque chrétienne et la Pâque juive correspondent, sont associées à l'idée du Messie, du sauveur du monde. Eh bien, figurez-vous que le mot Bereshit en parle 12 fois. Il y a 12 combinaisons de ce mot qui évoquent la venue du sauveur. Le mot « venu » se dit « Yavo ». « Qui Yavo Shilo » dit la Torah. « Quand viendra Shilo ?» qui est une évocation du nom du Messie, figurez-vous. Eh bien, vous pouvez combiner les lettres de Bereshit en Yavo Sharet il vient le serviteur. Yavo Sheter, il vient celui qui protège. Yavo Retesh, il vient celui qui hésite à venir. Et comme ça, ces trois lettres qui composent Yavo, qui à l'envers veulent dire Avi, mon père, qui est à la fois Yavo, le Messie, et qui est celui qui à la fois sert le monde, protège le monde, chante le monde, hésite à revenir, hésite à venir, mais viendra. Donc les combinaisons du mot Bereshit sont un programme de salut messianique, et donc pascal ou pessachique, quand on associe les deux choses, qui sont effectivement ce qu'attend l'humanité aujourd'hui.
Merci Pierre-Henri Salfati pour cette très belle et dynamique conversation que je vous invite à poursuivre la semaine prochaine. Je rappelle le titre de votre livre, Le Premier Mot, sous-titré Au Commencement, Histoire d'un contresens, paru aux éditions Fayard. Un livre profond, riche, exigeant, qui se lit facilement, avec un crayon à la main, comme aimait à le dire feu Georges Steiner, l'un de nos plus grands maîtres de philologie créatrice. Merci encore Pierre-Henri Salfati.
Merci Marc-Alain.
C'était Talmudic, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin, à la prise de son aujourd'hui Benjamin Vignal, à la réalisation Alexandra Malka. Bonne fête de Pâques, bon dernier jour de Pessah, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.